Alors, je ne vais pas faire de politique ce matin, n'ayez pas peur. Mais j'ai pensé à un texte qui parle aussi de choix de personnes. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Le lendemain, Jean le Baptiste, pas Jean l'évangéliste qui a écrit l'évangile de Jean, mais Jean le Baptiste, était de nouveau là, avec deux de ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste. Il vit Jésus qui passait et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'il le suivait et leur demanda « Que cherchez-vous ?»« Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu ?»« Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. » Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Jean nous explique un petit peu les termes. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, eh bien on t'appellera Céphas », ce qui veut dire Pierre, Pétros. Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. Que peut-il venir de bon de Nazareth ? Un peu de régionalisme. Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, alors il dit voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu ? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. « Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et un petit peu plus loin, dans l'évangile de Jean, « Je ne vous appelle plus serviteur, c'est Jésus qui parle, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est une histoire de disciples, du choix des disciples. Et en ce qui concerne le mot disciple, nous pourrions reprendre cette phrase souvent, trop souvent reprise de Shakespeare, « To be or not to be », un disciple. That is the question. Mais être un disciple, est-ce que c'est vraiment obligatoire ? Être chrétien, ça ne suffit pas ? Ou être pratiquant ? Ou être adhérent, ça ne suffit pas ? Est-ce encore pertinent pour l'homme et la femme du XXIe siècle, cette notion de disciple ? Il y a beaucoup de questions par rapport au mot « disciple ». Et on veut simplement revenir à la parole de Dieu, aux évangiles, et voir ensemble ce que Jésus disait lui-même ou entendait par ce mot et ce qu'il disait à ses disciples. Parce que dans la Bible, on n'a pas de profil type de disciple. Le disciple, c'est le type ou c'est la femme qui dit ceci ou qui est comme ceci ou comme cela. Ce n'est pas dans le genre de la parole de Dieu, des listes, non. Mais on a des récits, on a des histoires, on a des paroles qui nous permettent de voir ce dont il s'agit. Alors là, nous sommes au tout début. Jésus choisit ses disciples à la recherche. On recherche, non pas désespérément, mais des disciples de Jésus. Wanted disciples. Et pour cet épisode du choix des disciples, on a l'habitude de voir Pierre et André réparer leurs filets et Matthieu derrière son bureau de péage, Jacques et Jean dans une barque avec leur père Zébédée, hein, le père de Pierre, de Jacques et Jean. Et tous ces récits se retrouvent dans les évangiles qu'on dit synoptiques, c'est-à-dire que l'on peut voir ensemble. Matthieu, Marc, Luc, pas Jean. Matthieu, Marc, Luc. Mais l'évangile de Jean nous amène une autre scène. On ne voit personne dans une barque, mais le récit commence avec les disciples de Jean-Baptiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui entendent une déclaration de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau ». Et sur cette simple affirmation, ils se mettent à suivre Jésus, l'agneau de Dieu. Alors on peut être surpris de la différence entre les récits de Matthieu, Marc, Luc et celui de Jean, mais on peut penser que Jésus a choisi ses disciples par étapes, progressivement, de manière différente, peut-être même avec plusieurs appels. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur l'image, je crois que c'est le film Jésus, il y a une femme à droite, parce qu'il y avait des disciples femmes, il y avait des disciples qui suivaient Jésus. Mais il en choisit 12. 12 pour le suivre de manière plus rapprochée. Même si plusieurs femmes le suivaient aussi de manière très rapprochée. Elles soutenaient tout le groupe des disciples. Alors on ne connaît pas les critères de sélection pour ces disciples. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne le choisit pas parmi l'élite du pays. Il n'y a pas de concours d'entrée non plus. Ce n'est pas une école normale sup de disciples. Il prend des Galiléens comme lui, des gens du Nord, des ch'tis de l'époque, des gens un peu bruts de décoffrage d'ailleurs. Il y a quand même parmi eux un Judéen de la capitale, Judas, l'Iscariote. Alors, question sélection, on n'est pas dans la star académie, on n'est pas dans Voice, on est dans le mystère du choix de Dieu. En tout cas, les critères humains n'entrent pas vraiment en jeu dans l'histoire. Alors, revenons au récit de Jean 1 en quelques phrases qui nous signalent ce choix, enfin qui rentre dans cette histoire de choix de Dieu, en quelques phrases. La première phrase vient de la part de Jésus qui, tout au début du récit, alors que deux types se mettent à le suivre, il se retourne et leur demande « Mais que cherchez-vous ? Qu'est-ce que vous cherchez ?» La semeur traduit « Que désirez-vous ? » Alors, on peut prendre cette phrase d'une manière la plus simple possible. « Que cherchez-vous ? » ou « Qu'est-ce que vous avez en tête en me suivant ? Pourquoi vous me suivez ?» Et d'ailleurs, les deux disciples, un petit peu demeurés, quand même, vont répondre « On voudrait savoir où tu habites. » Il y a Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples de Jean suivent Jésus, cet agneau de Dieu, et quand Jésus leur demande « Que cherchez-vous ? » ils répondent « On voudrait savoir où tu habites. » C'est un petit peu... C'est un petit peu décourageant, un peu surprenant, on va dire, comme réponse. Alors ils disent quand même « Rabbi », qui veut dire « maître », mais quand même, ça ne plane pas très haut. Mais Jésus répond à leurs questions, parce que Jésus répond aux questions, même les plus simples. Mais il ne leur répond pas en leur donnant son adresse, mais comme un Il répond comme un appel, « Venez et vous verrez. » Une phrase qui invite à la confiance. On pourrait même dire à la foi, « Venez et vous verrez. » Mais il y a un pas à faire, il faut venir pour voir. Mais c'est une phrase qui marque le début d'une relation de confiance entre Jésus et ses disciples. Une réponse qui a dû interpeller, puisque les deux disciples de Jean-Baptiste devinrent les disciples de Jésus. Ils demeurèrent avec lui, nous dit le verset 39, ce jour-là. Demeurer avec lui, ce jour-là. Et tous les jours qui suivirent, ils sont venus, ils ont vu, ils ont suivi. Mais il y a certainement un autre sens, voulu par l'auteur du récit, c'est-à-dire Jean, l'évangéliste, celui qui écrit l'évangile. Jean qui écrit aussi pour ses lecteurs, qui écrit aussi l'évangile de Jean pour des lecteurs à la fin du 1er siècle et qui pratique aussi les deux niveaux de signification. Si bien que « cherchez-vous » devient pour celui qui lit ce récit ou qui l'entend ce récit quelques années ou dizaines d'années après, plutôt cette phrase « que cherchez-vous dans la vie ?» L'évangéliste de Jean veut dire cela aussi. Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous dans la vie ? Qu'attends-tu de la vie ? C'est comme si Jésus se retournait vers nous, lecteurs de ce récit du XXIe siècle, et nous demandait d'articuler, de mettre des mots sur ce que nous attendons de la vie. Ça, c'est une question qui nous prend au cœur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, à l'instant T, à cet instant T de la vie ? Et on aurait bien du mal à répondre à cette question. Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Peut-être nous donnerions une réponse un peu bête comme les deux apprentis disciples. On veut savoir où tu habites ou qu'est-ce que j'attends de la vie ? J'attends de voir la suite. On va voir. Peut-être une réponse embarrassée. J'attends plus grand-chose de cette vie. Ou j'en attendais beaucoup. Et je m'aperçois que je n'en attends plus beaucoup. Alors, peut-être un peu déçu, je me retire dans ma coquille, comme l'escargot. C'est là que je demeure dans ma vie, dans ma coquille, en attendant qu'elle passe. Qu'attendons-nous de la vie ? Qu'elle soit sans prétention, sans relief, sans risque peut-être, mais avec beaucoup d'ennui ? Où on attend encore une vie qui bouge, qui avance, qui prend des risques, qui se mobilise pour une cause qui mérite qu'on y consacre sa vie, une vie où on est là où on devait être, une vie qui aurait du sens parce qu'elle serait à la suite de celui qui a les paroles de la vie éternelle, alias Jésus-Christ. Une vie de disciple, quoi. Et toi, qu'attends-tu de la vie, nous dit Jésus, en se retournant vers nous, en se retournant vers toi ce matin ? Et puis, il y a une deuxième phrase que Jésus prononce, c'est ce « toi, suis-moi ». Il dit cette phrase à Philippe, une phrase bien connue, une phrase que Jésus va dire à Matthieu, le péager, « suis-moi ». Derrière son comptoir, derrière sa table de péage. Une phrase que Jésus va dire à Pierre et André, les pêcheurs. Et il va leur dire, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, avec l'accent circonflexe pour la pêche et non pas l'accent aigu pour le péché. Une phrase que Jésus dit à un disciple potentiel et anonyme dont on ne connaît pas le nom, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Moi, je te propose la vie. Ne retarde pas ton entrée, ta suivance. Et au jeune homme riche, on l'oublie souvent parce qu'on se rappelle surtout le « va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Mais il dit « mais viens et suis-moi ». Alors le jeune homme riche ne va pas le suivre. Et le texte le dit « et il s'en alla tout triste, le jeune homme riche ». Alors, l'expression « suis-moi », on peut le lire aussi à deux niveaux, au niveau le plus nôtre, c'est-à-dire de suivre physiquement Jésus, et à l'époque c'était vraiment ce sens-là qui prévalait, c'est pour les disciples de la première heure, ils devaient se mettre en marche et suivre Jésus physiquement sur les routes. Mais le verbe « suivre » est rarement utilisé dans ce sens neutre, il s'agit plutôt, dans l'évangile de Jean, de suivre en tant que disciple. Le verbe « suivre » est véritablement le verbe qui caractérise le disciple. Il revient plus de 70 fois dans les évangiles. Et en grec, le verbe « poursuivre » a donné en français le mot « acolyte ». Alors c'est un peu péjoratif. En français, il est venu avec son acolyte, avec sa mine patibulaire, mais presque, enfin, son acolyte. Mais pour la notion de disciple, c'est vraiment le sens de sa mission. Suivre, suivre Jésus désigne quelqu'un qui est toujours avec un autre, un suiveur, qui emprunte le même chemin, la même route, qui marche sur les mêmes traces. Suivre. Suivre comme un disciple, ce n'est pas marcher à distance respectueuse ou marcher sur une route parallèle, mais c'est être et devenir un proche. Rentrer dans une communion de vie avec le Maître, c'est entretenir une relation personnelle avec lui. C'est ça, suivre en tant que disciple. Et quand Jésus dit à quelqu'un et te dit « Suis-moi », ce n'est pas anodin. C'est un changement radical dans la vie qui commence. Et je ne sais pas si les premiers disciples se rendaient compte vraiment de ce que ce verbe signifiait, mais nous on sait que quand Jésus nous appelle à le suivre, ce n'est pas pour baguenauder dans les pâturages. Vous vous souvenez la pub pour Belle des Champs, magnifique, baguenauder dans les pâturages. Non, c'est pour le suivre, dans une relation vivante et vivifiante avec lui, être dans la proximité du Maître. Jésus va dire, après avoir délivré une femme de mauvaise vie, ou qui trouvait sa vie bien mauvaise, et avant de guérir l'aveugle, il va dire à cette femme, « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Suivre Jésus, c'est marcher, c'est le suivre, dans la lumière, vivre dans sa lumière. La troisième phrase qui ressort est dite par Philippe à un certain Nathanaël. Nathanaël qui est certainement Barthélemy. Il y a différentes listes des 12 disciples, Nathanaël, Barthélemy. Nathanaël, c'est un coriace, c'est un gars à qui on ne la fait pas. Et Philippe a bien du mal à le convaincre. Il est pourtant enthousiaste. Philippe, je cite Philippe, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la parole de Dieu, celui dont, que tout le monde attend. Il est là !» Seulement, il a le malheur, Philippe, de parler de Nazareth. Nazareth qui n'est pas Bethléem. Bethléem, là où doit naître le Messie. Et Nathanaël est un féru de l'Ancien Testament, de la Torah. Il sait, il a lu les textes. Le Messie doit venir de Bethléem. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? C'est le Nord. C'est l'Ishti. Peut-il venir? On voit tous les a priori, là. Il y a de quoi refroidir le plus bouillant messager. Mais Philippe aura cette réponse magnifique de simplicité, eh ben, et il le dit à Nathanaël, ben « Viens et vois. Tu viens et tu vois. » Et quelqu'un disait que ces deux petits mots, ou trois petits mots, étaient la base du témoignage, ou, employons un grand mot, l'évangélisation du monde, pour faire des disciples de Jésus-Christ, comme Christ nous le demande dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors c'est un ordre de mission qui nous dépasse un peu, faire de toutes les nations des disciples. Mais quand Jésus ou Philippe dit à Nathanaël, « Viens et suis-moi », ça, c'est peut-être plus à notre portée. On va simplement pouvoir dire à des personnes que l'on côtoie, « Mais écoute, t'es pas convaincu, ben viens, pas suis-moi, hein. Viens et vois, je me suis trompé, viens et vois. » On peut en effet être des Philippe et conduire son ami, son frère, son père, son fils, sa fille, sa femme, son mari, son voisin, son collègue à Jésus et lui dire tout simplement « Écoute, viens et vois ». Même les plus coriaces ne pourront pas refuser de venir et de voir. Alors on peut évidemment faire remarquer que Jésus n'est plus sur cette terre et que ça complique un peu les choses pour nous. Viens et vois, mais il n'est plus là, mais peut-être pas tant que ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire à nos amis de venir dans des endroits où simplement on parle de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit et de son amour? On peut encore dire aux gens que nous aimons, viens et vois, viens à l'église, viens au groupe de jeunes, viens au groupe de maison, viens au parcours Alpha qui, Dieu voulant, recommencera en octobre 24 de cette année, donc. Viens et vois, ou viens dans un autre groupe de chrétiens, tous les endroits où Jésus est présent par son esprit vivant, et il est vivant au milieu de nous. Alors il ne s'agit pas de répéter bêtement la même phrase, bon, viens et vois. Il faut surtout retenir de cette phrase la simplicité désarmante. Ainsi, tout ce qu'elle contient dans le respect du jugement de l'autre. Viens et c'est toi qui vois. J'ai confiance en ton jugement. J'ai confiance en toi. Et puis j'ai confiance aussi en Jésus qui convaincra ou qui se manifestera lui-même à cette parole, à cette personne. C'est ça qui doit nous inspirer dans l'expression « viens et vois ». Viens et fais ton idée. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en toi et j'ai confiance en Jésus. Vaut la peine. Une phrase qui paraît anodine, vient et voit, mais qui semble déboucher sur une décision de Nathanaël Barthélemy, qui va finir par être convaincu et qui va dire une confession de foi tout à fait remarquable au verset 44 et qui dépasse de loin ce que Philippe lui avait dit. Nathanaël va dire « Toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le roi d'Israël. » Et Philippe a dû se frotter les mains et se dire ben « J'ai bien fait de lui dire, viens et vois, grâce à moi, Jésus peut compter un disciple de plus. » Et c'est vrai, on remercie Philippe pour ce qu'il a fait, mais on a derrière une phrase de Jésus qui vient peut-être tout remettre en ordre dans la tête des disciples à la recherche de médailles du mérite. Et là, c'est dans Jean 15, quand Jésus va dire à ses disciples, après leur avoir parlé du privilège qu'ils ont d'être des disciples du Christ, il va leur dire, « Mais vous savez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous ne m'avez pas choisi comme on choisit un fruit ou un légume, chez Leclerc Rocheville, ou dans le supermarché du surnaturel ou du spirituel. Non. Que nenni, c'est moi, dit Jésus, qui vous ai choisi. Et Pierre et André, Jacques et Jean auraient pu répondre, objection. Nous avons quitté une entreprise florissante pour toi, nous avons pris la décision de te suivre. Mais Jésus va répondre à ces quatre pêcheurs de poissons plus ou moins frais. Jésus dit, non, c'est moi qui vous ai choisi. Matthieu aurait pu parler de son travail, du bon travail qu'il avait, du chiffre d'affaires en croissance constante qu'il avait en tant que percepteur d'impôts. Et il aurait pu dire, j'ai tout laissé tomber pour te suivre. Mais Jésus dit au collecteur d'impôts, c'est moi qui t'ai choisi. Et Nathanaël aurait été tout à fait d'accord, parce que c'est ça qui l'a le plus impressionné, le fait que Jésus lui ait dit, cette magnifique phrase aussi, avant que Philippe t'ait appelé, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Autrement dit, Jésus dit, je t'avais choisi avant même que toi, tu ne me choisisses. Avant même que tu sois convaincu de mon identité, c'est Jésus qui choisit ses disciples et non le contraire. Et là, Jésus, en choisissant ses disciples, marque clairement la différence avec ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, comme un peu aujourd'hui, ce sont les disciples qui se choisissaient leur maître pour le suivre. Un moment est passé à un autre, on a le témoignage d'un historien, d'un érudit juif de l'époque qui s'appelle Flavius Joseph, qui est né en 37 après Jésus-Christ, hein, et qui est mort à la fin du 1er siècle, mais en 4 ans, il rabbinique suivait un maître essénien, un maître sadducéen, un maître pharisien et un ermite de Banus. On peut appeler ça un disciple nomade qui se choisit des maîtres au fur et à mesure de son existence. Mais Jésus n'est pas un maître comme les autres, il choisit ses disciples. Et il nous choisit aussi, il nous choisit pour être ses disciples, et il nous appelle à l'être comme si, alors que nous sommes encore sous le figuier, il nous voit. Alors que nous étions sous le figuier en train de tapoter sur notre portable ou regarder une série, il nous voit, il nous avait vus. Alors il y a des concordances de temps, hein. Mais il nous connaissait déjà, il nous avait déjà choisis. Alors, on rentre là dans un grand mystère aussi de la Bible, le mystère du choix premier de Dieu qu'on pourrait appeler élection, qu'on pourrait appeler préscience, préconnaissance de Dieu. La Bible utilise ces mots pour parler du choix des enfants de Dieu. Comme pour les chrétiens qui sont dans la ville d'Éphèse, des chrétiens de cette ville qui ont été choisis par Dieu. Regardez ce que Paul, là c'est plus Jean qui parle, c'est Paul, avant la création du monde, donc c'est bien avant le figuier ça. Bien avant même la création du figuier, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Choisis d'avance. Dieu choisit ses enfants, Jésus choisit ses disciples. Alors, pour revenir aux premiers disciples, on pourrait même se poser la question, pouvait-il refuser de suivre ? Théoriquement et pratiquement, oui, puisque certains l'ont fait. Mais même ceux qui ont suivi ont dû prendre la décision de le faire. Ils abandonnèrent leur filet. Nous est-il dit pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils abandonnèrent même leur père, le pauvre Zébédée. Malgré le choix préalable de Dieu, il y a pour l'homme une décision à prendre, et c'est tout le mystère lumineux du plan de Dieu. Il y a une réponse à donner pour chacun d'entre nous, mais il y a surtout ce choix de Jésus sur nous qui nous surprend, qui nous impressionne, et en même temps qui nous donne tellement confiance. Je ne pense pas me tromper en disant que le verset de Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi » est un des versets préférés de mon épouse Yvonne, qui acquiesce. Ouais, c'est un verset magnifique. De sécurité, non pas pour se vanter, parce que la fin le dit, « Louons donc Dieu pour ce don magnifique », ce n'est pas pour se dire « J'ai été choisi ». Non, mais il m'aime. Il me choisit dans son amour, loué soit Dieu. Quelle assurance. Et pourquoi il m'a choisi moi ? Pourquoi je ne sais pas ? Et quand on ne sait pas pourquoi on est choisi dans l'amour, ça s'appelle la grâce. Ce choix qui me tombe dessus alors que je ne le mérite pas, et ce choix de Jésus résonne comme un appel, « Toi, suis-moi », un appel qu'on peut toujours refuser, mais qui ne se refuse pas, hein, comme dans le parrain. Hein, on va lui faire une offre qui ne se refuse pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, quelle réponse donner à cet appel et à ce choix de Jésus ? Ben, il s'agit simplement de se laisser choisir par Jésus, de ne pas opposer de résistance à l'appel comme le jeune homme riche qui s'en est allé tout triste, se laisser choisir par Jésus alors qu'on est encore sous le figuier, se laisser choisir pour être un disciple qui le suit à la trace. Et Jésus dira qu'il choisit d'avoir des disciples premièrement pour les avoir avec lui, pour qu'ils demeurent avec lui, et deuxièmement pour qu'ils portent du fruit dans la vie, pour les envoyer en mission. C'est tout un programme. Le programme de vie, de la vie d'un disciple, d'une disciple de Jésus-Christ. Nous avons été choisis pour être ses disciples. Alors, allons-nous nous laisser choisir, une fois pour toutes, et peut-être renouveler aussi notre réponse. Allons-nous nous laisser choisir? That is the question. Amen.